Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à Canal Académie. Les 20 et 21 septembre dernier, s'est déroulé Quai de Conti un colloque, le colloque international intitulé « Formes graphiques et statut de l'écrit dans l'Europe médiévale ». Ce colloque a fourni pour la première fois l'occasion de réunir les représentants de l'ensemble des institutions impliquées dans l'entreprise des Monumenta Paleographica Medievi, les MPMA, les Monuments Paléographiques du Moyen-Âge. Cette collection, conçue par Jean Vézin, correspondant de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, et Hartmut Atzma, malheureusement disparu, avait été portée sur les fonts baptismaux en 1995. Et l'édition des MPMA est aujourd'hui continuée, dirigée par trois historiens. Jean-Pierre Mahem, membre de l'Institut de France, président de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Elisabeth Laloux et Marc Smith. Tous trois nous font le plaisir de présenter ici, dans le studio de Canal Académie, les MPMA, cette série d'ouvrages qui s'attache à la reproduction photographique des plus anciens documents médiévaux, des facsimilés reproduits à grandeur d'original et accompagnés d'informations et de notices explicatives. Madame, Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, madame.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Jean-Pierre Mahé, l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, dont vous êtes membre, a accepté évidemment, avec un grand intérêt, de patronner cette entreprise. Et quelle est la genèse, quels sont les buts, et puis aussi son titre, parce qu'en fait, son titre, Monument Paléographique, c'est un titre très large.
Oui, c'est un titre très large. À vrai dire, il faut expliquer que nos prédécesseurs, c'est-à-dire les prédécesseurs de Jean Vézin et de Hartmut Atzma, ont abordé la publication des manuscrits, des chartes ou des manuscrits antérieurs, on peut dire, à l'an 900. Et que, à cette époque, il paraissait nécessaire, même indispensable, d'examiner tous ces documents et de les publier intégralement pour savoir comment avait évolué l'écriture. Mais que, à partir, disons, de la fin des années 800 ou de l'an 900, on change tout à fait d'échelle. C'est-à-dire que si on entreprenait de tout publier, ça représenterait des volumes considérables et ça ne serait pas forcément instructif parce que, naturellement, il y a beaucoup de documents qui sont semblables et qui, au fond, ne nous apprennent pas grand-chose sur l'usage qu'on fait de l'écrit et sur l'écriture. Et donc, on a été amené à la fois à choisir et à diversifier. Choisir, c'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on allait prendre... faire un peu le tour de l'Europe, non pas, je dirais, d'une Europe géographique qui est bien problématique à définir, mais d'une Europe culturelle, et essayer, dans les diverses traditions que cela représente, de choisir des documents originaux, représentatifs d'un usage particulier de l'écrit, d'un support particulier, et en même temps de prendre ce qu'il y avait donc de plus significatif. Donc, ça nous a amené d'emblée à imaginer qu'on publierait plus seulement des chartes ou des manuscrits, mais également des inscriptions sur pierre, pourquoi pas des tablettes de cire, des ardoises wisigothiques, des objets que on a décidé d'appeler d'un nom plus vaste qui est monumenta.
Hein, oui, c'est-à-dire le patrimoine.
Ce qui reste, ce qui témoigne en quelque sorte du rôle de l'écriture dans l'Europe médiévale.
Oui, et on a parlé surtout à partir du 9e siècle parce que c'est le moment où on a le plus de documents que l'on peut glaner dans toute l'Europe.
C'est vrai qu'à partir de 900, à partir du 10e siècle, on assiste à un essor de l'écrit dans tous les pays de l'Europe actuelle. Et effectivement, il paraît difficile de tout prendre en compte, de tout éditer. Et c'est pourquoi on a fait un choix ensuite dans cette masse de documentation. Et on a fait un choix à partir de la paléographie, en fait, de l'intérêt paléographique pour l'écriture dans tous ces documents. Et c'est ainsi donc que Jean Vézin et Hartmut Atzma m'ont demandé de publier les tablettes de cire, donc les contes de l'Hôtel du Roi, qui eux sont postérieurs, hein, puisque la première série qu'on ait conservée, c'est donc une série qui a été tenue par le chambellan de Saint-Louis, Jean Sarrazin et qui tenait ainsi ses comptes sur un gros volume de bois et de cire, ce qui était une pratique courante parmi les comptables royaux et qui s'est pratiquée jusqu'au milieu du XIVe siècle.
Donc vous avez présenté des documents qui sont officiels, mais peut-être aussi des documents qui servaient de brouillons, si vous avez...
Ces comptes sur tablette de cire étaient effectivement des brouillons, ou des comptes intermédiaires, on pourrait dire.
Oui. Alors quels sont les supports, Mark Smith, les autres supports, la cire, mais aussi...
Les autres supports, Jean-Pierre Mahé a cité les principaux parmi ceux qui ont déjà été publiés. En effet, les tablettes de cire, les ardoises... Il y a d'autres supports qui ont été utilisés dès l'époque romaine, des supports très variés, des fragments de poterie, des tablettes de bois écrites à l'encre, des écorces de bouleau, notamment dans le domaine russe. Ces supports-là, surtout parmi les plus anciens, ont déjà donné lieu à des publications, donc ne seront pas repris tels quels dans la collection. Mais on peut imaginer d'autres supports, par exemple, je ne sais pas, des inscriptions sur objets, si on trouvait une catégorie particulière d'objets, et surtout un chercheur disposé à se lancer dans l'édition d'un pareil volume, puisque la collection a ceci d'intéressant, qu'elle est très souple en effet, enfin, vous avez souligné le caractère très général du titre, un des avantages est qu'on peut accueillir des volumes qui n'entrent pas dans un programme prédéfini, en fonction des collaborations qui peuvent se dessiner, en fonction des contacts que nous pouvons établir progressivement avec des pays éventuellement de plus en plus lointains.
Et donc, il y a combien de volumes maintenant et quelles sont les séries?
Nous en sommes à un peu moins de 20.
Les séries sont définies sur une base qui est en partie géographique, en partie linguistique, disons. Ce n'est pas strictement géographique. Donc la série S. Gallica, pour parler latin, donc qui contient des documents d'origine française. La série S. Hispanica pour l'Espagne. La série S. Hebraica n'est pas liée, elle, à la géographie, mais à une langue et à une écriture. La série S Ibero-Caucasica recueille donc plusieurs volumes de la zone caucasienne dont Monsieur Mahé donc est le spécialiste éminent que l'on sait.
Il y en a une Polonica aussi.
Oui, alors c'est ça. Il y a d'autres séries qui ont été envisagées, notamment à partir de la dynamique que nous espérons avoir lancée avec ce colloque. Et nous espérons avoir consolidé aussi des liens qui étaient établis, enfin, des séries en cours de constitution, dont on peut espérer donc la naissance prochaine, mais qui n'ont pas encore donné lieu à des volumes imprimés, qui sont la série S Polonica, donc avec un volume qui devrait paraître très prochainement, et par ailleurs une série pour l'Angleterre.
Bien sûr.
Jusqu'ici, les collaborations se faisaient attendre, maintenant nous avons de meilleurs espoirs. Il reste la question d'une série allemande, une série S Germanica, donc, et il a été proposé, je pense à juste titre, et je ne suis pas le seul, d'étendre la collection aussi bien à des zones qui ne sont pas strictement parlées européennes, ni même étroitement rattachées à la culture européenne, mais dont les alphabets sont dérivés des mêmes racines que nos propres alphabets. C'est-à-dire, en gros, des écritures sémitiques apparues depuis environ 2000 ans avant Jésus-Christ, voilà, et qui ont essaimé dans tout le bassin méditerranéen et bien au-delà.
Mais ça serait à part.
Ce serait à part, voilà. Et ceci, donc, constituerait une nouvelle série que nous appellerions, alors non pas du nom de Series, pour bien signifier qu'elle est à part, mais plutôt d'un nom tel que Subsidia Orientalia. Voilà,
pour, et on a une série belge, n'est-ce pas,
qui faut pas oublier. La série S Belgica, oui. Alors, pardon, parmi les séries également en cours de préparation, une série S Belgica, voilà, avec un volume prochain. Une autre série qui a un fondement essentiellement linguistique ou qui est liée à un alphabet est la série S Graeca, dans laquelle apparut un volume de manuscrits grecs datés de la Bibliothèque nationale de France.
Et je crois que vous avez aussi une future série Hungarica. Vous êtes allé, évidemment, en Europe centrale.
On a noué des contacts, mais pour l'instant, ces contacts n'ont pas débouché sur un projet précis. Donc, nous ne perdons pas l'espoir de créer une série S Hungarica, mais elle n'est pas en route pour le moment.
Oui, en fait, vous êtes en train d'essayer de créer, et vous êtes bien, évidemment, déjà bien en marche, de créer un réseau européen interacadémique, interuniversitaire, qui va permettre d'élargir, l'avenir dira jusqu'où, mais d'élargir cette collection. D'abord, quel est son éditeur?
Son éditeur, c'est les éditions Brepols de Tournout, qui véritablement font preuve à la fois d'un très grand professionnalisme, parce que ça n'est pas simple de produire des reproductions grandeur nature de documents aussi diverses et aussi des reproductions aussi nettes. Parce que, évidemment, la série a un but, je dirais, pédagogique.
Scientifique.
Qui est essentiel. et en même temps de préservation. C'est-à-dire qu'à la limite, certaines bibliothèques pourraient, ou c'est notre ambition, pourraient communiquer au lecteur nos facsimilés plutôt que le document lui-même qui reste toujours quelque chose de difficile
et fragile,
qu'il faut donc préserver d'une certaine façon. Donc, d'un côté, au point de vue technique, c'est tout à fait remarquable ce qui est fait. Et d'un autre côté, il faut penser aussi à la difficulté de diffuser, de financer des entreprises
aussi spécialisées. Vous avez des
mécènes ? Les frais sont pris, disons, pour la plupart, par les éditions Brepols elles-mêmes. Néanmoins, nous avons obtenu pour certains volumes des subventions. Par exemple, les volumes caucasiens ont été... Le travail préparatoire a été subventionné par la fondation Volkswagen et ça a permis de nous rendre directement à Sainte-Catherine du Sinaï pour photographier ces documents. Quelquefois aussi, le problème se pose des droits de reproduction à donner à diverses bibliothèques européennes. Et là, la fondation Saint-Germain-Polignac nous a aidés, par exemple, à financer les reproductions des rouleaux des morts, qui sont des documents très originaux, c'est-à-dire ce sont des rouleaux qui circulent d'abbaye en abbaye pour indiquer les prières qui seront faites en faveur d'un défunt. C'est très intéressant aussi bien par la variété des écritures que par les itinéraires européens que cela révèle, c'est-à-dire les connexions entre les différentes abbayes, les routes que l'on suit, donc c'est quelque chose de très important.
Vous vous concentrez sur l'écriture et sur la diplomatique.
Tout à fait. Donc, et effectivement, madame, on ne peut pas lire un document sans s'intéresser à sa mise en page, ce qui est au fond un des buts de la diplomatique, hein, qui est d'étudier le document en son entier, à quoi il est destiné, quelle est la décision prise, pour le cas des chartes évidemment. Et la collection s'intitule bien sûr « Monument paléographique », mais elle s'adresse tout autant donc aux diplomatistes et aussi au grand public en fait, qui peut ainsi découvrir des documents qu'il n'aurait pas la possibilité d'aller voir dans les archives ou les bibliothèques.
Oui, parce qu'on ne peut pas toujours faire le déplacement pour aller à l'endroit précis du document.
On peut effectivement ne pas avoir des difficultés à aller au Mont Sinaï, mais on peut tout autant avoir des difficultés à avoir des tablettes de cire qui sont conservées à la Bibliothèque nationale. Mais c'est vrai que pour la France, et les archives nationales ou la Bibliothèque nationale, en fait, collaborent quasiment à la collection en fournissant les photographies gratuitement au Monumenta Paleographica.
Il y a donc
il faut le souligner, un
soutien très fort de toutes les administrations scientifiques dans ce domaine-là.
Oui, les institutions de conservation sont bien conscientes que la collection aide à préserver les documents et leur permet de fournir en fait un facsimilé aux lecteurs qui demanderaient autrement les documents originaux.
Et alors, vous constatez que tous les documents qui ont des origines variées montrent que l'esprit colonise petit à petit tous les champs de l'activité humaine grâce à vos découvertes que vous pouvez de plus en plus étudier précisément avec les nouvelles technologies.
Les nouvelles technologies ont une part dans la collection alors même qu'elle est imprimée sur papier. Et on pourrait parler de la question... Faut-il passer au numérique pour la reproduction de documents anciens ? Les nouvelles technologies ont été utilisées, alors en particulier dans le cas des volumes caucasiens, dans le cas de la publication de palimpsestes, c'est-à-dire donc de manuscrits sur parchemin grattés et réécrits. On a parlé tout à l'heure de la difficulté d'accès aux documents. Elle n'est pas seulement géographique, elle tient aussi à l'état de conservation de ces documents. Ces documents sont lisibles, très difficilement encore, grâce à des moyens techniques sophistiqués qui permettent de faire ressortir la couche inférieure d'écriture en... n'estompant, si on veut, de la couche supérieure. Mais dans l'état actuel de la collection, ce sont des procédés qui aboutissent de toute façon à une impression papier.
En ce qui concerne les palimpsestes, Monsieur Maé, vous avez l'exemple très précis du fameux palimpseste caucasien.
Oui, je dis que c'est très intéressant parce que nous avons en fait procédé à un démontage et à un remontage virtuel du palimpseste. Parce que si c'est le même papyrus qui est, ou le même parchemin plutôt, qui est réutilisé, n'est-ce pas? Ça veut dire que, par exemple, on va prendre un grand feuillet et puis le plier en deux. Mais si le feuillet est plié en deux et inclus dans les cahiers d'un nouveau livre, ça veut dire que, mettons, le haut de la page se trouve à la page 2 et le bas de la page se trouve à la page 8 du nouveau livre. Donc, l'informatique permet de photographier séparément, puis ensuite de ressouder ces deux moitiés du texte, donc de remonter. Et puis ensuite, comme vient de le dire Monsieur Smith, on a la possibilité de faire apparaître, mettons, la couche inférieure et disparaître la couche supérieure. Autrement dit, grâce à des moyens informatiques et optiques, on a aujourd'hui la possibilité de faire sur du parchemin ce qui était le privilège des archéologues sur le terrain. Les archéologues peuvent creuser, vous dire ça c'est la couche byzantine et en dessous c'est la couche romaine. Et nous pouvons faire ça, c'est-à-dire que nous avons, mettons au Sinaï, où les peaux de mouton sont rares, nous avons une peau de mouton qui a été utilisée 3 fois, nous pouvons dire le premier état, voilà ce qu'il en reste matériellement, le deuxième état, voilà ce qu'il en reste, et le troisième état, bien naturellement, nous l'avons dans telles circonstances. Et d'une certaine façon, nous avons la possibilité de photographier dans un état plus ou moins usé, mais enfin, des objets qui n'existent plus. Et c'est ça qui est extraordinaire dans ces nouvelles méthodes qui ont été inventées. Et les Italiens qui se sont d'abord intéressés à cette question, ils ont parlé de rinascimento virtuale, c'est-à-dire que ces nouvelles méthodes permettent de faire apparaître des documents qui étaient inaccessibles auparavant et qui n'existent plus, qui existent, si vous voulez, à l'état latent.
Hein,
quelqu'un normalement équipé de ses yeux et d'une loupe ne les voit plus. Et maintenant, on arrive à les reconstruire et à les photographier. Et donc à explorer des étapes inconnues du développement de l'écriture. Donc en fin de compte, peut-être, nous sommes partis de l'idée qu'on allait étudier des documents qui seraient postérieurs à partir du Xe siècle, mais en fait, comme nous nous sommes diversifiés, nous sommes amenés en Orient à étudier des documents plus anciens, et en plus, nous découvrons que ces documents contiennent des couches cachées qui permettent de remonter plus haut encore.
Oui, une des découvertes les plus spectaculaires là, dans ces publications a été celle du palimpseste albanien, portant
avec une nouvelle langue.
Texte évangélique, avec une écriture qui était connue uniquement par un alphabet copié tardivement et une langue dont on n'avait aucun exemple jusque-là. Donc là, c'est la résurrection à la fois d'une écriture et d'une langue.
Et la langue, avez-vous des éléments pour pouvoir à peu près comprendre son origine ?
Oui, absolument. Parce que d'abord, nous savons très bien, grâce à des chroniques du Moyen-Âge, dans quelles circonstances cette écriture avait été inventée. Elle a été inventée au 5e siècle pour une région qui correspond au nord de l'Azerbaïdjan actuel. Et on avait même fait déjà un certain nombre d'hypothèses sur la nature de cette langue qui se rattache forcément à la famille nord-est caucasique, c'est-à-dire les langues du Daghestan, essentiellement. Ces langues existent encore à l'état résiduel, soit dans la République du Daghestan, qui fait partie de la Fédération de Russie, soit en Azerbaïdjan. Et donc, il y avait déjà, à partir du 19e siècle, des savants qui avaient tout simplement recueilli les parlers locaux, les parlers en quelque sorte résiduels. Et c'est donc la comparaison entre ce qui était écrit et ces parlers locaux qui a permis, tout en sachant qu'il s'agissait bien sûr de textes évangéliques, de comprendre et même d'analyser segment par segment, je dis pas mot à mot, mais segment par segment, la totalité de ces textes. Bien entendu, ça supposait que on sache la valeur phonétique des signes de l'alphabet, mais cela, nous le savions par un manuscrit du 15e siècle qui nous donnait la clé phonétique de l'alphabet. Et ça s'est révélé exact. Et donc, il a été possible de déchiffrer entièrement. Et donc, on peut croire que le temps de déchiffrement des hiéroglyphes s'est révolu. Bien non, parce que on peut, au début du 21e siècle, déchiffrer comme ça une langue et une écriture nouvelle.
Oui, c'est donc l'avenir extrêmement radieux pour vous.
Et un autre cas très impressionnant qui a été montré au colloque par Monsieur Sims Williams. C'est une étude alors qui n'est pas destinée au Monumenta, mais qui a été présentée dans le cadre de notre colloque. C'est le développement de l'écriture grecque dans le nord de l'Afghanistan, à partir de ce qui en était resté de l'époque d'Alexandre le Grand.
Qui et était donc passé, bien sûr, et qui avait laissé d'abord construit des villes et laissé des populations.
Voilà, et une écriture, donc l'écriture grecque importée à ce moment-là, et qui a évolué comme en vase clos, jusqu'à produire des formes très éloignées de celles de l'alphabet grec tel que nous le connaissons, en sorte que les documents dans cette écriture ont fait l'objet à la fin du 19e siècle de déchiffrements sur la base d'une hypothèse qui était que ce serait de l'écriture araméenne ou dérivée de l'écriture araméenne. Et donc ces textes ont été lus avec des efforts d'imagination que j'imagine considérables par un chercheur qui a lu les textes de droite à gauche alors qu'ils se lisent de gauche à droite et en supposant un alphabet différent. Donc je ne sais pas exactement quel sens il leur a trouvé. Mais voilà, tout cela pour dire que, avec M. Sims-Williams, ces alphabets sont déchiffrés correctement et révèlent également une nouvelle écriture en même temps que des contenus documentaires.
Et aussi, il y a aussi une nouvelle langue, en fait.
Le bactérien, oui, qui est une forme de moyen iranien et qui, évidemment, là aussi, c'est une langue, une écriture entièrement nouvelle et qui dérive de l'alphabet grec. Et donc, en fait, en croyant étudier des choses qui paraissent comme ça plus tardives, médiévales, on remonte à des époques plus anciennes.
Oui, bien sûr.
C'est un des effets inattendus de la recherche.
Oui, c'est pour ça que vous parliez d'archéologie.
Oui.
Et ces documents sont effectivement tout à fait étonnants puisqu'ils se présentent un peu comme les chartes à la même époque en Occident. Et ils portent des sceaux, ils sont sur parchemin ou sur cuir, mais plutôt sur parchemin. Et quand ils ont découvert ces documents, ils se présentaient sous la forme de lettres closes, ce qu'on appelle lettres closes en Occident. Donc ils les ont ouvertes et ils ont lu donc cette langue inconnue dans un alphabet grec qui avait évolué tout seul. Donc c'est vrai que c'était une communication vraiment très intéressante et étonnante.
Vous avez parlé aussi, parce que j'ai eu la chance d'assister au colloque, et vous l'aviez évoqué, monsieur, tout de suite, là, les écorces de bouleau. Et les écorces de bouleau, ça sera pour la Cereus russica, j'imagine que ça sera, ou c'est déjà...
Les écorces de bouleau sont déjà publiées par ailleurs, donc il y a d'autres documents russes intéressants à publier, mais nous n'allons pas refaire nécessairement ce qui a déjà été fait et bien fait.
Peut-être nous ferons un volume avec des écorces de bouleau, peut-être récemment retrouvées, ou peut-être un échantillon.
Si le cas se présente, en réalité, évidemment, on ne veut pas redonder sur des publications qui seraient déjà faites. Et le volume vers lequel s'orienterait peut-être en premier lieu la série russe, c'est sur les premiers documents russes au sens propre du terme. C'est-à-dire que vous savez que les Russes commencent à écrire par une écriture qu'ils ont importée. C'est-à-dire ils ont importé des livres bulgares et écrits en slavon. Et il va falloir plusieurs siècles pour que, petit à petit, ils se mettent à écrire la langue, à vrai dire très proche du slavon, mais la langue russe qu'ils parlent eux-mêmes. Et ces documents russes apparaissent donc à partir du XIVe siècle, un peu marginalement, on peut dire, dans des chartes, et puis après, petit à petit, on va avoir des chartes qui sont véritablement russes.
Oui.
Alors, ces objets n'ont pas été encore grandement étudiés, et donc nous allons d'abord nous diriger vers ces objets qui sont largement inédits. Mais il est plus que probable, étant donné tout ce que nous avons dit, qu'on va découvrir des choses inattendues en s'intéressant à ces objets apparemment tardifs et qui vont peut-être nous obliger à nous poser des tas de questions qui avaient échappé jusqu'à présent à l'attention des paléographes.
Oui, et j'imagine que tous les historiens qui ne sont pas paléographes sont suspendus à vos découvertes parce que la paléographie, ce n'est pas une science auxiliaire de l'histoire, c'est de l'histoire. Donc vous avez un rôle capital, un rôle de science dure et de science humaine qui sont associés. Parce que, évidemment, les supports sont de plus en plus connus et ça permet de connaître de plus en plus le travail fait sur ces supports.
Oui, effectivement, cela rejoint ce que nous avons dit tout à l'heure peut-être sur la diplomatique. Nous nous intéressons en tant que paléographes d'abord à l'alphabet, aux alphabets, aux écritures et à leur évolution. Mais la publication, et en particulier donc l'impression d'une transcription à côté de la photographie, donne également accès à des lecteurs non paléographes au contenu du document. Et ce contenu donc intéresse aussi bien les diplomatistes qui s'intéressent à la forme non seulement matérielle mais textuelle des documents et à tous ceux qui s'intéressent au contenu même, aussi bien des textes littéraires que des actes juridiques que nous publions, oui.
C'est vrai que les éditions que nous fournissons restent dans la langue originale, donc même en latin. J'ai montré il n'y a pas bien longtemps mon édition des tablettes à quelqu'un qui ne savait pas le latin et qui me demandait si j'en avais fait de la traduction. Donc on ne va pas jusqu'à la traduction.
Et enfin, c'est quand même aussi pour les amateurs d'histoire.
C'est-à-dire que certainement, vous voyez, nous allons publier les actes de ce colloque. Et ce colloque va nous montrer en effet toute l'histoire qui est sous-jacente à nos travaux. parce que le fruit de ces études, c'est évidemment d'étudier l'évolution matérielle de l'écriture, de poser peut-être un certain nombre de questions, j'allais dire presque de linguistique générale ou presque de physiologie de l'écriture. Mais d'un autre côté, c'est de montrer l'importance croissante que prend l'écrit dans la civilisation. C'est-à-dire que petit à petit, l'écrit va envahir toutes les sphères de l'activité humaine. La sphère privée, la sphère économique, les chancelleries, la transmission du savoir, etc. Évidemment, cela va se faire à des époques différentes suivant les régions de l'Europe et puis ça va donner lieu à une certaine synthèse. Alors cette synthèse, d'une certaine façon, elle reste implicite dans nos travaux. Nous nous hasardons rarement à dire aux historiens les conséquences qu'ils doivent en tirer. Nous le faisons un petit peu quand même dans les introductions, mais il est probable que plus la collection se développera, plus nous serons amenés, surtout s'il y a d'autres colloques que nous envisageons, à être plus clairs sur cette question et à tirer des conséquences synthétiques et qui sont incontestablement historiques.
C'est-à-dire que les savants qui contribuent à la collection sont eux-mêmes de formation et de spécialité assez variées. Il y a des paléographes, donc pur sucre, mais également des diplomatistes, également des historiens, également des linguistes. Donc chacun apporte ses compétences et sa perspective propre à l'édition des documents. Après, notre rôle est de donner des lignes directrices qui permettent de donner à la collection une certaine unité, qui la rendent d'autant plus utile. Mais effectivement, chacun des lecteurs peut y trouver aussi ce qui l'intéresse en propre, de même que chacun des éditeurs a fait le livre en fonction de ce qui l'intéressait au premier chef.
Eh bien, très bien. J'imagine que vous n'avez pas fini de vous réunir pour programmer, pour proposer ce qui va permettre le développement de cette merveilleuse collection. Merci beaucoup à vous trois.
Merci beaucoup.
Merci à vous.